Et 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous. Dans moins de 5 minutes, une édition spéciale consacrée au sommet USA-Afrique, en lieu et place du dialogue des religions. Vous retrouverez Idrissa Seydou Dia, Jean-Roger Billon à ce microphone. Tout de suite, un bulletin d'information. Dernier jour aujourd'hui du sommet États-Unis-Afrique à Washington, au menu de l'agenda du président américain Barack Obama, trois rencontres publiques avec les dirigeants africains. M. Obama doit prendre la parole lors des sessions qui porteront respectivement sur la croissance économique durable, la paix et la stabilité et la bonne gouvernance sur le continent africain. 50 chefs d'État et de gouvernement participent à ce sommet. La Maison-Blanche a organisé hier soir un dîner d'État en l'honneur de ses hôtes au cours duquel le chef de l'exécutif américain a fait un clin d'œil à son héritage africain, affirmant que pour sa famille, les liens entre les États-Unis et l'Afrique sont profondément personnels. M. Obama a annoncé 33 milliards de dollars d'investissements privés et publics des États-Unis dans divers pays africains. 12 personnes ont été condamnées à mort aujourd'hui en Égypte pour le meurtre d'un général atteint d'une balle il y a près d'un an, alors qu'il coordonnait un raid sur un bastion des frères musulmans. En République centrafricaine, le premier ministre André Nzamba Payeke a officiellement remis aujourd'hui sa démission ainsi que celle de son gouvernement Idrissa Fall.
André Payeke n'aura duré que 7 mois à la primature. Il a remis officiellement sa démission à la présidente de la transition pour, selon lui, donner plus de sens à la paix.
C'était utile qu'à travers ce geste, que nous donnons l'opportunité au président, justement, d'avoir les mains plus libres pour pouvoir intégrer tous ces éléments afin de nous faire évoluer rapidement. Et il fallait nécessairement passer par la démission. Vous savez que le poste de Premier ministre est inamovible.
Suite à sa démission, hommes politiques et membres de la société civile se sont prononcés contre la nomination d'un chef de gouvernement sur des bases confessionnelles ou d'appartenance à un groupe armé. À Batangafo, au nord de Bangui, un calme relatif règne au lendemain de violents combats qui ont encore opposé hier soir les forces internationales aux ex-Seleka. Il y a eu plusieurs dizaines de personnes tuées, dont 2 soldats français. Par ailleurs, le numéro 2 de l'ex-coalition Seleka, le général Noureddine Adams, a suspendu Mohamed Moussa Dafan, second vice-président, et Mohamed Taïb, jusqu'à la tenue d'une nouvelle Assemblée générale, motif évoqué, non-respect des consignes de la hiérarchie et haute trahison.
Le Soudan tiendra des élections générales en avril 2015. L'opposition, qui ne veut pas d'un vote imposé, a exprimé ses réserves. On ne sait pas si le président Omar al-Béchir, au pouvoir depuis 1989, briguera un nouveau mandat.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Les armes se taisent à Gaza pour une deuxième journée consécutive. Pendant la trêve de 72 heures négociée par l'Égypte, les représentants du gouvernement israélien et du Hamas se retrouvent au Caire pour envisager un cessez-le-feu durable. Le secrétaire d'État John Kerry a appelé les deux parties à faire des concessions. C'est la plus longue pause en un mois de combat ayant fait 1800 morts chez les Palestiniens, la plupart des civils, et 67 dans le camp israélien, dont 3 civils. L'OTAN a averti que la Russie pourrait envoyer des troupes dans l'est de l'Ukraine sous le couvert d'une opération humanitaire ou de maintien de la paix. Michel Joseph.
La mise en garde a été lancée par la porte-parole de l'Alliance Atlantique, Ona Lungeshu. Pour rappel, l'OTAN avait signalé hier que Moscou avait augmenté de manière significative ces derniers jours, portant à 2000 environ le nombre de ses forces à la frontière avec l'Ukraine. Elles sont appuyées par beaucoup de chars, éléments d'infanterie, forces spéciales et avions de combat. De son côté, Tony Blinken, adjoint de la conseillère américaine en matière de sécurité nationale, avait déclaré fin juillet que la Russie avait recommencé à masser des troupes à la frontière, ce qui la mettrait en bonne position pour une potentielle soi-disant opération humanitaire ou de maintien de la paix en Ukraine. Et le premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré aujourd'hui que la menace d'une intervention directe russe est certainement plus importante qu'il y a encore quelques jours. Pour sa part, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a souligné aujourd'hui que les unités de maintien de la paix de l'armée russe se devraient d'être constamment prêtes pour le combat. Il a tenu ses propos en assistant à des exercices sur une base d'une de ses unités dans le sud de la Russie.
Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Place maintenant à Idrissa Seydou Dia pour une édition spéciale consacrée au sommet USA-Africa.
Au micro, Idrissa Seydou Dia. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. En lieu et place de notre émission hebdomadaire du Dialogue des religions, nous vous proposons ce mercredi 6 août 2014 une édition spéciale sur vos réactions et commentaires concernant le sommet États-Unis-Afrique qui se tient cette semaine à Washington entre le président Barack Obama et une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains. Tout à l'heure, vos réactions, commentaires sur Facebook et par téléphone. Mais d'abord, le président Obama a annoncé lors de ce sommet États-Unis-Afrique la mobilisation de 33 milliards de dollars pour le continent sous forme d'aide publique et d'investissement privé. Cette somme comprend notamment 26 milliards de dollars pour le programme Power Africa destiné à apporter de l'électricité à 60 millions d'Africains. À l'ordre du jour également, la paix et la stabilité en Afrique et la lutte contre les groupes terroristes comme Boko Haram, Al-Qaïda au Maghreb islamique ou les Chebab somaliens. Pour commencer, j'ai pu joindre ce matin Hippolyte Fofak, économiste principal à la Banque mondiale et spécialiste en macroéconomie et développement, qui replace le sommet dans son contexte.
Sur la forme, on a l'impression que, pour une fois, n'est-ce pas, l'Amérique, Washington vit à l'ère de l'Afrique, en ce sens qu'on parle d'Afrique un peu partout, dans le Washington Post, qui n'est pas souvent très commode. On parle également d'une Afrique qui doit se développer. Donc, sur la forme, c'est très intéressant. Mais sur le fond, je dois dire que tout est encore à voir. Il est question de redéfinir le partenariat entre les États-Unis et l'Afrique, se démarquer un peu des questions d'aide et d'assistance pour renforcer le partenariat commercial et industriel. Nous verrons bien ce qui sortira de ces discussions. Je dois dire que le plus important pour l'Afrique aujourd'hui, c'est d'établir un tissu industriel qui, n'est-ce pas, devrait à terme permettre l'essor d'une structure de production manufacturière de manière à ne plus exclusivement dépendre, n'est-ce pas, des matières premières.
Vous dites que sur le fond, ce n'est pas encore ça et qu'il faudrait un tissu industriel. Mais est-ce que les partenaires américains ne pourraient pas aider justement à mettre sur place ce tissu industriel?
Moi, je dois dire que l'Asie aujourd'hui, qui aujourd'hui tire la croissance mondiale, a beaucoup bénéficié, n'est-ce pas, de l'expertise américaine dans les années 50-60. Et plus récemment encore, les délocalisations industrielles en Chine, à partir de l'Amérique et même de l'Europe, ont permis à la Chine de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et un exemple qui est en train de se dérouler en ce moment devant nos yeux, c'est que dans les 5-10 prochaines années, la Chine deviendra une puissance aéronautique, prête à, n'est-ce pas, compétir avec Boeing et Airbus, parce que la Chine a un programme qui permet de dire, puisque nous avons un marché extrêmement grand et expansif, nous n'allons pas simplement importer des avions de Boeing ou de Airbus, nous allons leur demander, comme condition pour importer 100-200 Boeing ou Airbus, qui délocalise une structure de production en Chine. Et ça marche très bien pour la Chine, ça marche dans l'industrie automobile, ça va marcher pour, n'est-ce pas, ce qui est aérospatial. Donc il faudrait que l'Afrique apprenne un peu de la Chine pour que des rencontres comme celle-ci se traduisent par un win-win. Donc il faudrait que l'Afrique aborde ces discussions avec un programme et une stratégie, et surtout une stratégie.
Vous parlez de délocaliser. Vous me faites penser un peu au rôle que jouaient les multinationales dans le temps, comme dans le cas de la Corée du Sud. Mais il faudrait quand même que certaines conditions puissent être remplies dans nos pays même pour que ces industries puissent se délocaliser.
Bien entendu, et ça c'est la question fondamentale aujourd'hui. Donc, quand on parle d'une Afrique qui croit, d'une Afrique, n'est-ce pas, ce que j'ai très souvent entendu, et vous aussi, j'imagine, c'est-à-dire que les 10 économies les plus performantes au monde sont en Afrique. Ce discours me rabat à tout moment. Et la question que je me pose, je suis revenu d'Afrique au mois de juin, que ce soit au Nigeria, au Cameroun, au Sénégal, il n'y a pas d'électricité. Et comment est-ce que des pays peuvent se développer quand il n'y a pas basic infrastructure, l'électricité, l'eau, and so forth. Donc les conditions qu'il faudrait réunir aujourd'hui, c'est qu'il faut que les gouvernements africains établissent ce qu'on appelle l'infrastructure infrastructure économique, de business infrastructure, pour permettre, n'est-ce pas, aux entreprises de se délocaliser et pour permettre à terme, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, foreign direct investment, qui aujourd'hui vont à plus de 80% vers l'Asie et l'Europe, qu'une partie de ces investissements directs étrangers viennent vers l'Afrique. Mais pour le faire, il faudrait envisager, n'est-ce pas, moderniser les infrastructures, établir ce qu'on appelle des zones économiques spéciales, avec tout ce qu'il faut comme infrastructure pour, n'est-ce pas, faciliter et attirer, n'est-ce pas, les investisseurs étrangers et les compagnies étrangères qui aimeraient se délocaliser vers l'Afrique. Je dois dire que l'Afrique a un potentiel énorme, non seulement en termes de démographie, puisque la population africaine est jeune et restera jeune, la plus jeune au monde, n'est-ce pas, au cours des 30-40 prochaines années, mais également avec la main-d'œuvre qui devient de plus en plus chère, n'est-ce pas, dans les pays asiatiques. L'Afrique sera la prochaine frontière. Mais pour qu'elle soit vraiment cette frontière, il faudrait, n'est-ce pas, comme vous l'avez si bien dit, qu'elle mette sur pied les infrastructures nécessaires pour être compétitive au niveau global.
Alors, Hippolyte, j'ai eu à parler à un expert congolais. Bon, il est congolais, donc il peut parler d'Inga. Mais je crois que la Banque mondiale aussi a estimé que Inga était nécessaire pour l'électrification de l'Afrique.
Vous savez, Inga, on en parle depuis que toi et vous et moi, nous sommes nés.
Je suis plus vieux que vous.
Nous sommes nés, c'est tout le monde le sait, le potentiel d'Inga est énorme. Et au moment d'ailleurs où nous parlons, Inga est déjà en train d'alimenter l'électricité en Afrique du Sud. Je crois que Eskom tire une partie, n'est-ce pas, de son énergie du barrage d'Inga. Inga a beaucoup de potentiel, et c'est énorme, mais il faudrait qu'on passe du discours qui est essentiellement axé sur le potentiel à la réalisation de ce potentiel. Et pour l'instant, nous n'y sommes pas. Et les besoins pour, n'est-ce pas, établir ce barrage, de rendre opérationnel, sont énormes. Il faudra envisager plusieurs formats. Et j'ai pensé à un moment donné, quand je travaillais sur le Zaïre, qu'on pourrait s'inspirer de ce que les Européens ont fait il y a quelques années, il y a quelques décennies, sur ce qu'on appelait la CEAC, la Communauté économique européenne pour le charbon et l'acier, qui permettrait, n'est-ce pas, étant donné le conflit qui mine cette sous-région, on dirait peut-être pour ce projet Inga, qui nécessite des milliards de dollars, on peut forger, n'est-ce pas, une espèce de partenariat où chaque pays africain, secteur public et secteur privé, pourrait participer à un consortium pour, n'est-ce pas, établir ce barrage. Et ça forcerait, n'est-ce pas, chaque pays qui a intérêt, qui aurait contribué à un tel financement, à œuvrer pour plus de stabilité et de paix dans la sous-région. Donc je pense qu'on peut vraiment lancer le barrage d'Inga, mais le leadership devrait, n'est-ce pas, venir du continent, une fois qu'on a une stratégie pour mobiliser des ressources au niveau local et domestique, on pourrait ensuite aller vers la Banque mondiale, les Européens, les Chinois, que sais-je encore, les Japonais, pour avoir des financements additionnels. Mais ça fait 40-50 ans qu'on attend que l'extérieur vienne le faire et ça ne s'est pas fait. Et by the way, je dois également le dire, le financement, les ressources financières, ce n'est pas la seule condition aux contraintes d'aujourd'hui. Je pense que la contrainte majeure d'ailleurs, 50 ans plus tard après les indépendances, est surtout au niveau technologique et scientifique. Il faudrait qu'on forme, n'est-ce pas, les Africains dans les domaines pointus de l'énergie, dans le domaine pointu, n'est-ce pas, de la chimie industrielle, la gestion de l'eau, and so forth, pour pouvoir, n'est-ce pas, une fois qu'on aura établi ces grands projets innovants, il faudrait qu'on puisse, n'est-ce pas, les maintenir, il faudrait qu'on puisse les améliorer au fil des années et des temps.
Hippolyte Fofac, économiste principal à la Banque mondiale et spécialiste en macroéconomie et développement. Pour rappel, cette émission, cette édition spéciale est consacrée à vos réactions et commentaires sur le sommet États-Unis-Afrique qui se tient cette semaine à Washington entre le président Barack Obama et une centaine de chefs d'État, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains. Alors, tout de suite, le téléphone avec Rémi Kabiona et Ousmane Niafia. Mais nous commençons par Rémi Kabiona. Rémi, vous avez l'antenne.
Merci bien pour m'accorder l'antenne. J'ai été bien intéressé par votre sujet concernant le sommet USA-Afrique. Mais de ma part, j'ai trouvé que ça ne donnera rien, ça ne donnera rien. Un problème qui date de plus de cinquantaine d'années. Un problème qui date de plus de cinquantaine d'années. Et puis, nous dire que dans trois jours, on s'assoit. Ce deux jours d'ailleurs, parce que le premier jour, même le président Barack Obama n'était pas présent.
pour deux jours vraiment. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir causé pour que, n'est-ce pas, on harmonise toute la situation qui date depuis des cinquantaines d'années. Et tout cela, par rapport à moi, ce que je trouve, c'est le manque de volonté, tout simplement. Si l'Occident le mérite, l'Afrique se développerait. Ça m'a pensé, moi. Et je pense que vraiment, on devrait encore revoir la situation. Essayons un peu de collaborer. Et si on le veut en Occident, collaborons comme il le fallait. Collaborons comme il le fallait. Parce que l'AGOA même, c'est un échec. Je suis de la RDC, moi. Nous ne sommes pas dans l'AGOA. RDC, nous avons été un peu évincés. Parce qu'il y avait eu des problèmes, je connais bien. Mais alors, qu'on s'arrange.
Merci Rémi. Je crois que ce qu'il faudra retenir, c'est le suivi. Je ne crois pas que les participants à ce sommet se soient fait l'illusion de régler tous les problèmes de l'Afrique en 3 jours. Bon, mais c'est un début de discussion, de débat. Et il va falloir voir maintenant le suivi de ce sommet. Alors, j'avais dit que nous avions Ousmane Niafia en ligne. Ousmane, vous êtes encore là avec nous?
Oui, je suis là.
OK, allez-y, Ousmane.
Ah, d'abord, je veux dire merci pour l'antenne. Et pour moi, je n'ai rien à dire, seulement que d'avoir un renseignement très clair sur ça.
Quel renseignement?
Oui, je voulais avoir un renseignement, quoi. C'est pas pour m'interviewer et dire.
Ah, d'accord, donc vous voulez tout simplement écouter, ne pas intervenir. Très bien. Alors,
seulement c'est ça que je voulais.
Bien, très bien. Alors, bonne écoute dans ces conditions. Qui d'autre avons-nous en ligne? Alphonse Mwaki de Kinshasa. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir, Ulissa. J'ai deux questions. La première, c'est de savoir s'ils vont bénéficier de cette aide américaine de 33 milliards. Est-ce que ce sont des pays qui ont mis en place une politique des droits de l'homme, une promotion de la démocratie, comme c'était pour AGOA? C'est bien que tout le monde en aura droit, même si la bonne gouvernance n'est pas expliquée. Ça, c'est un des deux. C'est une question relative plutôt à la sécurité. Les États-Unis envoient des experts au Nigeria, des experts des renseignements. Ils travaillent en collaboration avec l'armée nigérienne. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à détecter où sont cachés
Alphonse, oui, comme je disais tout à l'heure, à l'heure du jour également, bon, à part les questions d'investissement, de commerce et autres, bien sûr, il faut qu'il y ait un cadre propice à l'investissement, il faut qu'un cadre soit stable. Donc, en ce moment-là, ils vont discuter de la paix et de la stabilité en Afrique. Et je crois que dans ce cadre, il est possible d'aborder toutes ces questions de gouvernance dont vous parlez vous-même et la lutte contre les groupes terroristes comme Boko Haram, dont vous venez de parler. Il y a aussi Al-Qaïda au Maghreb islamique et les Shebab somaliens. Donc, toutes ces questions ne seront pas escamotées lors de ce débat. Et je crois que ce sera l'occasion d'échanger des idées et de voir comment on peut y faire face. C'est un problème très difficile. Vous l'avez dit, au Nigeria, on ne sait toujours pas comment localiser les jeunes filles enlevées par Boko Haram. Le Nigeria dit savoir où elles sont, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait pour les libérer. Les autorités disent que ce serait dangereux de le faire pour leur propre survie, mais en réalité, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est un problème très grave, très sérieux, un problème nouveau dans la région ouest-africaine, ce problème de Boko Haram et des terroristes dont nous avons discuté ici. Avons-nous en ligne quelqu'un d'autre? Aaron? Allô, Aaron? Aaron?
Allô?
Oui, allez-y, Aaron.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Oui. Allez.
Oui, on vous écoute.
Allez bien.
Vous avez un commentaire à faire?
Oui, bon. Oui, oui.
Mais allez-y, faites votre commentaire.
Bon, comme vous venez de le dire, le problème de l'Afrique ne va pas se résoudre en trois jours, bien sûr, mais je crois que la démocratie ne peut pas venir de l'extérieur. La démocratie se crée elle-même dans le pays. C'est ça. Et avec ça, ce n'est pas facile que les États africains puissent résoudre ces problèmes-là en trois jours. Donc, s'il y a des choses à faire là, il suffit de voir. À chaque fois, les gens modifient les constitutions pour leur faveur et se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas ça là, le problème.
Oui, alors donc, vous insistez sur le respect des constitutions. Quand on dit deux mandats, ces deux mandats, il ne faudrait pas essayer justement de changer la constitution chaque fois pour pouvoir se représenter en disant « Ah, mais on a affaire à une nouvelle constitution, donc j'ai droit en troisième mandat ou en quatrième mandat et on reste au pouvoir ad vitam aeternam ». D'autres commentaires?
Mon nom, c'est Issa Adama Koulibaly. Et le souci que moi j'ai présentement est de savoir ce que ce chemin-là va servir pour l'Afrique, surtout pour l'Afrique occidentale. Et avec tous ces problèmes que nous avons, c'est-à-dire en Afrique occidentale, par exemple, le problème du Mali, de la Guinée, et le problème aussi de la Côte d'Ivoire. Et je pense que le sommet invité ces pays africains, c'est-à-dire aller faire, c'est-à-dire un sommet aux États-Unis, et au moment où pratiquement tout l'Afrique, il y a les problèmes, c'est-à-dire pratiquement dans tous les pays de l'Afrique, et je ne vois pas vraiment beaucoup l'importance de ce sommet aux États-Unis présentement. Donc, c'était ça ma réaction par rapport à ça.
Je suis béninois et j'appelle actuellement de Cotonou. Par rapport à ce sommet, moi, je ne suis pas du tout pour, puisque nous sommes assez majeurs pour prendre en main nos propres décisions. Il ne faudrait pas que chaque fois, ça soit l'Occident qui se rapproche des dirigeants africains et leur dit ce qu'il faut faire. Nous savons comment les dirigeants occidentaux, ils viennent et ils épient nos ressources. Voilà un peu ma réaction.
Je m'appelle Boulatoumba à partir de la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Par rapport au sommet États-Unis-Afrique, d'abord, ce que j'ai vu sur la photo, on a présenté la photo de M. Kagame ainsi que le président Obama et leur femme. Ma question était de savoir pourquoi seulement on a mis la photo de M. Kagame sur cette photo au moment où il y avait tant d'autres présidents. Or, nous, ici où nous sommes, nous la considérons comme quelqu'un qui ne respecte pas les droits de l'homme au Rwanda, même ici en République démocratique du Congo. Il ne veut pas la démocratie au Rwanda. Ma deuxième préoccupation, il y a tant de problèmes. Est-ce que c'est sur le plan économique? Et lorsqu'on nous parle que les États-Unis va appuyer avec 33 milliards de dollars. Et ces 33 000 qu'il a accordé aux Africains, ça fera quoi sur le plan économique? Rien du tout.
Merci beaucoup. Bon, sur la photo, peut-être que notre ami Bagasikora aurait pu expliquer. Enfin, il m'a promis de vous répondre sur Facebook. Parlant de Facebook, ces commentaires ont été recueillis et lus par Georges Léonard Sagnot.
Gilles Manalmom, je veux que le président américain aide les États africains à réaliser de grands projets et à mettre fin aux guerres qui sévissent en Afrique, surtout en Libye, en Centrafrique et au Congo, et partout dans le continent africain, parce que l'avenir du monde de demain est en Afrique. Serigne Ndiaye, l'Afrique regorge d'énormes potentiels pour se développer. Ce qui nous manque, c'est un climat des affaires propice au développement, notamment la transparence dans les affaires économiques. Cela permettra la naissance d'un rêve africain où les enfants du continent s'assureront de pouvoir réussir s'ils travaillent et non s'ils ont un bras long. Voilà des conditions sine qua non pour le développement d'une nation. Et pour les dirigeants africains, je leur suggère de se rappeler que cet innocent peuple d'Afrique les a vus naître et grandir, les a protégés et portés un amour sans condition. Donc, en retour, plus de considération et plus jamais les vendre au diable pour des miettes. J'appelle à plus d'altruisme aux hommes et femmes d'Afrique pour une émergence de la mère patrie. François Lomanja Odiko. Je préfère que l'Afrique puisse coopérer avec la Chine que les États-Unis et l'Europe. Nous devons coopérer avec des pays qui donnent sans promesse, comme la Chine. Même si elle vole, mais le travail en cours sera fait. Les États-Unis seulement des promesses et des guerres en Afrique et soutiennent les présidents dictateurs pour se maintenir au pouvoir.
Voilà, c'était quelques commentaires recueillis sur Facebook par Georges Léonard Sagnot. Maintenant, des auditeurs qui nous appellent Trésor Bambino, c'est votre nom ? Allô ?
Oui, Trésor Bambino Malinga, parti à la République du Congo.
Ok, allez-y, Trésor.
Oui, monsieur le journaliste, je voulais seulement intervenir par rapport au sommet États-Unis-Afrique.
Oui.
Nous avons une relation tellement intense. Dans la mesure où le président Obama est en train de convoquer les chefs de l'État africains en leur proposant, n'est-ce pas, 30 milliards pour investir au Congo, alors que les États-Unis sont là pour alimenter les guerres en Afrique, au Congo, n'en parlons pas, monsieur le journaliste. Et ce qui nous préoccupe tellement, c'est que le président Kabila qui est allé aux États-Unis, c'est un monsieur amorphe. Permettez-moi le terme, c'est un monsieur amorphe. Il prend des discours qu'il ne peut pas mettre en pratique. Un président qui promet aux gens qui finissent les études de construire pour eux les stades et les hôpitaux, moi je l'ai dit. Et tout le monde sera hier, monsieur le journaliste. Mais ce que nous demandons, les chefs d'État africains doivent coopérer avec la Chine, puisque la Chine elle est là, pas pour alimenter les guerres, mais pour construire certains pays africains. C'est tout ce que moi je voulais demander, n'est-ce pas, à M. Obama, d'arrêter avec cette coalition-là. Nous devons coopérer avec les Chinois qui sont là pour nous aider, pour avancer l'Afrique dans des bons moments et la suite de l'énergie en tout et pour tout.
Merci à vous aussi. Bien entendu, je ne suis pas représentant du gouvernement américain pour vous répondre. Ce que vous avez dit, c'est bien entendu un point de vue que l'on entend aussi très souvent en Afrique et ailleurs dans le monde. Gilbert Kiyoyi. Gilbert ?
Oui.
Allez-y.
C'est Gilbert Kiyoyi. Je suis en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Kasai occidental. Moi, j'aimerais bien à ce que le gouvernement soit la République démocratique du Congo.
Allô ? Gilbert, je crois que nous avons perdu Gilbert. Avons-nous quelqu'un d'autre en ligne, Lionel ? Lionel ? Oui, alors allons-y. Écoutons ce commentaire, Gilbert.
Désiré Kanyinda, nous voulons que les États-Unis nous aident, peuple africain, à mettre fin au président dictateur, imposteur, tricheur des élections et génocidaire. Et aussi ceux qui veulent rester au pouvoir éternellement.
Voilà un autre commentaire qui donc demande l'assistance des États-Unis pour mettre fin à la dictature dans certains pays et aussi aider à promouvoir le développement économique de l'Afrique et la paix et la stabilité face aux nombreux défis qui se posent au continent africain et à sa population. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous remercie, chers auditeurs. Je remercie aussi de l'autre côté de la vitre Lionel Gaïma et Michel Joseph, ainsi que Georges Léonard Sagnot. Idrissa Sedoudia pour cette édition spéciale consacrée à vos réactions positives et négatives au sommet qui se tient ici à Washington entre le président Obama et une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains. Washington, la voix de l'Amérique.